au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto 360. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'avais hâte de vous parler parce qu'il y a plusieurs nouvelles de l'industrie. Je ne qualifierais pas d'extraordinaire, mais des nouvelles importantes en lien avec même ce qu'on vous a parlé il y a deux semaines. Donc, ça va être assez intéressant. Et j'espère que vous êtes de bonne humeur. Moi, je le suis. Je prétends aussi que mes collègues le sont. Philippe Lagu, Marc Bouchard. Je parle tout de suite à Philippe. Comment ça va, Philippe?
C'est sûr que si je parle de Ferrari, je suis de bonne humeur. Ça, doute-en même pas.
Bon, j'allais te demander de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. On reste en Italie, puis là, on va avec le summum.
En fait, on complète la trilogie italienne qu'on a commencé avec Lamborghini et Maserati. Alors là, on la complète avec Ferrari. Mais tu sais, Ferrari, c'est une marque qui célèbre cette année ses 70 ans. Puis c'est surtout, il ne faut pas se le cacher, la marque la plus prestigieuse de la planète. Alors, je pense que deux blocs aujourd'hui, on n'en a pas de trop pour parler de Ferrari parce que c'est une histoire qui est tellement riche, autant pour les voitures de production que pour la course. Alors, on va essayer de faire un grand résumé de tout ça là, dans nos deux blocs consacrés à Ferrari aujourd'hui.
J'ai bien hâte de jaser de tout cela parce que Lamborghini, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis Ferrari, ben, il y a tellement à dire. Alors, j'ai hâte de te parler un petit peu plus tard, mon Philippe.
J'ai dû faire des choix déchirants.
Bon.
Ben, parce qu'on ne peut pas tout dire, tu sais. On ne peut pas tout raconter.
Tu voulais savoir où couper, là. Tu as réussi à couper des choses.
Ah, c'est pas facile.
Ah, c'est pas facile ta vie. On s'en reparle tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
Alors, Marc, ça va, Marc?
Ça va bien, toi?
Ben oui. Alors Marc, il y a aussi plusieurs nouvelles de l'industrie. On va répondre évidemment aux questions des gens, mais il y a des nouvelles importantes que tu vas nous parler.
Ouais, effectivement. Ben écoute, on ne peut pas passer aux côtés de notre ami Tesla, qui a fait parler beaucoup de lui cette semaine. D'autres nouvelles aussi, des petits rappels chez Toyota, plein de choses et même un essai que j'ai fait cette semaine de la Hyundai Accent 2018 qui arrive au mois de janvier.
Ben oui, si on se fie à la Rio, je pense que ça risque d'être intéressant, cette nouvelle Accent.
Ça l'est honnêtement et c'est plus grand qu'on pourrait le croire.
Comme on a une nouvelle extrêmement importante à vous jaser au retour de la pause, immédiatement je vous pose la question. Les camions poids lourds électriques, est-ce que vous y croyez ou non? Est-ce qu'on est rendu là pour le transport de nos marchandises de faire appel à des mastodontes électriques? Est-ce que c'est possible d'avoir ces genres de mastodontes? On vous donne les données techniques un petit peu plus tard. Et évidemment, vous avez deviné que c'est en lien avec la nouvelle de Tesla. Je vous donne les numéros pour nous rejoindre immédiatement. Alors, pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec, 418-670-9330, ailleurs, 1-866-790-9850, ou encore auto360 à cogecomedia.com. On s'arrête tout de suite, puis au retour de la pause, on jase ensemble, véhicules électriques.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause, on revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco, Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Alors, nous voilà de retour et j'avais hâte de cette nouvelle parce que si vous vous souvenez, il y a deux semaines, lorsqu'on s'est parlé dans les nouvelles de l'industrie, Marc nous a fait une nouvelle concernant Tesla, Marc. Et la nouvelle concernant était un peu négative. Là. C'est une nouvelle où Tesla annonçait des pertes importantes, une réduction importante de la production. Et là, ils arrivent, évidemment, étant extrêmement marketing, c'est quelqu'un, M. Moss, qui ne veut pas vivre longtemps dans le négatif. Alors, on veut sortir de bonnes nouvelles rapidement après une mauvaise. Et c'est toute une nouvelle qu'il a annoncée ou toute une nouvelle qu'il a dévoilée. Je pense que c'est un dévoilement de deux produits. C'est assez impressionnant qu'est-ce qu'il a fait.
Ah ouais, c'est assez impressionnant. Reste à voir si ça va être réaliste. Je te trouve très optimiste quand tu dis que c'était un peu négatif, là. Perdre 619 millions en trois mois, c'est pas mal négatif dans mon esprit. Couper de moitié la production de la Tesla Model 3, c'est pas pire négatif aussi. Alors là, ce qu'ils annoncent, c'est vraiment dans un tout autre ordre d'idées. D'une part, il a pris tout le monde par surprise en présentant la version 2 de son petit Roadster. On rappelle que Tesla était parti avec le Roadster, c'est ce qui avait créé au départ sa personnalité.
Oui, c'était un Lotus modifié.
Exactement. On l'avait pris sur le Lotus modifié. Là, c'est vraiment un châssis indépendant. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est complètement fou. 0-100 en bas de 2 secondes. 1,9 secondes, ce qui est complètement hallucinant. Une autonomie, bref. Sauf que c'est une voiture de 250 000. On pourrait y revenir, là, ça, il y en a très peu parlé, sinon que c'était comme l'événement pour faire la surprise. Bien, ce que tout le monde attendait.
Juste avant, écoute, Marc, on parle du Roadster, là, 1000 km d'autonomie. Le 0-100, ouais. 1,9 secondes, c'est incroyable. Là. Je ne sais pas s'il va être capable de livrer ça, mais je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui vont essayer de vérifier si c'est absolument vrai. Temps de recharge qui est découplé. Alors, ce Roadster-là promet énormément.
Batterie de 200 kWh,
je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'on va faire pour les construire? En tout cas, bref, reviens, arrive à mon camion.
C'est ça, c'est pour ça que je te disais, je voulais passer vite sur le Roadster. La vraie nouvelle, en fait, c'était le semi, c'est-à-dire le gros camion poids lourd que Tesla a annoncé. Camion 100% électrique. Et là, écoute, tu parlais des données spectaculaires du Roadster. C'est rien à côté de celle du camion. 500 000, c'est-à-dire 800 km d'autonomie, déjà 100% électrique. 30 minutes de recharge à 50%. Et plus que ça, excuse-moi, à 80 %. Donc, 650 km de recharge en 30 minutes. Tout ça entraînant 80 000 livres de poids en charge, 36 000 kilos, c'est pas rien. Un 0-100, imagine, à vide en 5 secondes et en 20 secondes quand il est chargé à plein. Ça commence à être super puissant. Et on continue, évidemment, il y a toutes sortes d'affaires. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 4 moteurs à l'arrière. Donc, c'est 4 moteurs électriques qui vont contrôler les roues. Ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher le camion de faire une mise en portefeuille, les fameux jackknife, parce qu'évidemment, on va pouvoir contrôler la puissance selon les roues. Donc, ça, c'est un autre élément. Position de conduite centrale dans la cabine, donc on n'est pas à gauche comme on a l'habitude de le faire, mais vraiment au centre. Une cabine qui est extrêmement profilée et, bien entendu, là, toutes sortes d'autres éléments, incluant le fameux système autopilote à la Tesla,
qui va être partiellement... Et un pare-brise pratiquement par balle, là. T'sais, on voit arriver qu'il y a des roches dedans, puis tout, incassable. Alors, c'est assez spectaculaire. Et une vision, on dit que de la position centrale, on sait que l'habitacle est minimaliste chez Tesla. Là, c'est deux écrans, tout simplement deux écrans, donc deux iPads là, qu'il y a là sur le tableau de bord. Et la vision avec le pare-brise qui descend très, très bas va être optimale pour les gens qui travaillent dans le camionnage.
Ouais, ça c'est le prototype. Tu sais, il faut se rappeler que des prototypes, ça a tendance à avoir une certaine vision, pas nécessairement.
C'est pas un prototype, ils vont le sortir bientôt.
Ouais, prévu pour 2019. Et en même temps, il a annoncé un réseau de méga chargeurs. Parce qu'actuellement, il y a déjà les superchargeurs, mais pour atteindre ce qu'il veut faire, il a besoin de chargeurs qui pourraient aller jusqu'à 2 mégawatts. Juste à titre d'information, les superchargeurs actuellement.
Après la turbine, là.
Oh là, c'est Abbé James que tu traînes derrière toi, là.
C'est ça.
Parce qu'actuellement, les superchargeurs font 150 kWh. Donc, c'est littéralement presque 20 fois plus puissant que les chargeurs actuels, ce qu'il aurait besoin pour réussir à remplir son camion. Mais évidemment, il y aura toutes sortes de développements. On dit que les premiers vont être faits à partir de 2019. Et, petite note canadienne dans l'annonce, Loblaws est une des premières compagnies à avoir précommandé un certain nombre de ces camions-là pour leur flotte en disant qu'à partir de 2021, je pense, ils veulent être partiellement, totalement électriques au niveau de tout ce qui se fait comme transport. Donc, Loblaws est une des premières compagnies à avoir précommandé le fameux semi de Tesla.
Donc ça veut dire que tu dois avoir un parcours qui reste en ville là, ou à peu près là. Je sais pas là, les gens du camionnage, vous allez devoir nous appeler, je vous redonne les numéros pour savoir si c'est faisable. 800 km, est-ce que c'est suffisant? Le temps de recharge de 30 minutes pour aller chercher un autre 650, est-ce que c'est faisable? Parce que la borne de recharge va devoir être sur notre route alors que les camions ça part à gauche à droite. Alors est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ce que Tesla a annoncé c'est quelque chose de positif? Moi, je suis pour justement ces véhicules-là parce qu'on sait que c'est les plus polluants. Donc, d'arriver avec des versions électriques, c'est déjà génial. Faut dire que ça existe déjà des véhicules de service électrique, là, des véhicules de génie civil, des véhicules de livraison qui sont utilisés, par exemple, par les villes puis qu'on peut recharger, qui ne travaillent pas la nuit, qui ne travaillent pas 24 heures sur 24. Là, on les recharge le soir, là, on peut les recharger. Le matin, on les utilise, mais c'est 160 km environ que ces véhicules-là peuvent
parcourir. Mais c'est ça l'idée. C'est que là, on parle d'usage en ville. Donc, bien entendu, une autonomie moindre, mais ce n'est pas grave, on n'est pas loin. Et tu le sais comme moi, ce qui est intéressant au niveau de la voiture électrique, c'est potentiellement une partie de la régénération au freinage. Or, si tu t'en vas sur une grande route avec un camion, tu brûles beaucoup d'électricité, mais t'en récupères pas beaucoup.
Alors qu'en ville, t'en récupères pas mal. Il y a ces super panneaux solaires qui vont permettre de récupérer un peu d'énergie. Sauf que moi, j'ai l'impression que les camions aujourd'hui doivent rouler absolument 24 heures sur 24 pour être rentable. Des fois, deux conducteurs, puis on mange dans le camion. Je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce que c'est faisable? Pour les gens de Montréal, 514-790-9850. Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850 si vous voulez nous parler, ou encore auto360 à cogecomedia.com. Marc, autre facteur, est-ce que la production, parle-moi de la capacité de production, parce que là, la nouvelle de la semaine dernière, il y a deux semaines, plutôt, c'était de savoir ou d'être capable. On apprend que Tesla n'était pas capable de faire leur deuxième ligne de production. On coupait de 10 000 à 5 000 l'objectif de production du modèle 3. Les modèles S ne sont pas encore livrés, tout ce qui a été vendu. La même chose pour le modèle X. On fait des panneaux solaires aussi pour les maisons. On va-tu être capable de livrer tout ce qu'on est en train de promettre du côté de chez Tesla?
Le problème, en fait, c'est qu'on ne sait même pas où ces camions-là vont être assemblés. Même si, théoriquement, ils sont là dans deux ans, il n'y a rien qui a été préparé dans les usines actuelles d'assemblage de Tesla. On n'est pas prêt à ça. Tu l'as mentionné déjà actuellement. La raison pour laquelle on a éliminé une partie des modèles 3 qu'on avait prévu, c'est que là, c'est un entonnoir. On n'est pas capable au niveau de la production des sorties. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour ajouter 40 000 camions.
40 000 camions. Je vous parle de camions aujourd'hui, mais parmi les questions, vous pouvez nous poser n'importe quoi. Vous savez, cette nouvelle-là retient particulièrement mon attention, mais évidemment, vous savez que les questions, on est libre sur... on a Stéphane en ligne. Bonjour Stéphane.
Bonjour monsieur.
Comment ça va?
Moi, ça pourrait aller mieux, mais ça coûterait plus cher. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis camionneur.
Oui.
Puis souvent, je fais deux fois par jour Melocheville, Saint-Angèle-de-Prémont.
OK.
C'est assez de kilométrage. On fait deux fois par jour, c'est au-dessus de 1000 km. C'est pas assez, les camions que Tesla propose. Déjà, en partant, ils proposent de la force. Ils disent qu'on peut faire 800 km avec un trailer de deux essieux.
Mm-hmm.
Nous autres, on se promène en quatre essieux. Bon. Il en manque encore. Il en manque pas mal. C'est sûr que s'ils diraient on pourrait aller chercher 1500 km avec un trailer de 4 essieux que tu mets 40 tonnes dedans, je pourrais vous dire qu'il y a bien des compagnies de transport qui y penseraient. Parce que mon boss, lui, personnellement, on a 10 trucks. Juste en fioul, ça a coûté 700 000 piastres l'année passée.
Donc là, déjà, vous êtes en train de leur dire doublez ce que vous nous offrez présentement. Si vous doublez ce que vous nous offrez, on va être correct.
Ça va être pas pire. Parce que déjà, dans le temps, il y avait le groupe Couture.
Ouais.
Tout le monde a entendu parler. Eux autres, il y avait un char électrique, puis sur une des roues, il y avait un chargeur. Le chargeur, il menait du train. Il y avait une dynamo qui chargeait les batteries au fur et à mesure que ça roulait. Si Tesla peut mettre quelque chose au point pour faire ça avec les roues directionnelles, d'avoir la petite qui générerait du courant, tout en roulant, pas un accumulateur d'énergie quand tu freines, tout en roulant, ça aiderait.
Là, on pourrait commencer à jaser. Mais là, donc, c'est de l'application pour certaines petites compagnies qui ne vont pas trop loin puis qui reviennent.
Compagnie qui fait juste du local, comme des fois, je suis sur un 12 roues. Je me promène de Sainte-Clotilde à Montréal. Okay. Montréal, Sainte-Clotilde. Je fais ça 5 ou 6 fois par jour. Je ne dépasserais jamais 800 km par jour avec ça. Ça, ce serait idéal. Mais là, encore là, il y a une affaire qu'on ne sait pas. Un gars qui se promène avec toute la journée avec la chaufferette ou la climatisée, ça use comment les batteries?
Ça, c'est la question. Le froid qu'on a ici, les températures, le vent, etc., est-ce que ça vient jouer dans l'autonomie? On peut déjà peut-être dire que le 800 annoncé est plutôt 600. Faudrait l'acheter pour ça. Et le temps de recharge, je suis pas certain que les compagnies de transport vont aimer ça.
Le temps de recharge, là, si, mettons, un gars fait 800, comme une fois par jour, on part de Melocheville, puis on va à Saint-Angèle-de-Prémont, on revient une demi-heure entre chaque voyage. Ce serait pas trop pire.
Si votre borne est disponible. Si la borne pour se recharger est disponible, puis il n'y a pas deux camions qui attendent.
Et on rappelle qu'une demi-heure, c'est pour 600 km. Vous avez plus votre 800 km la deuxième shot, là.
C'est ça.
Vous avez seulement 600 km.
Merci beaucoup, Stéphane. Mais bien.
À deux voyages, mettons, le 800 plus le 600, on aura en masse.
Tu n'as assez. Merci d'avoir appelé, Stéphane. Luc est en ligne. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ben oui.
Oui, moi, je suis camionneur, moi aussi, là. Puis, comme le monsieur précédemment disait, deux essieux, quatre essieux, il y a des bitrains. Le camion, il pèse comment? Le camion électrique avec les batteries.
Ça, c'est une bonne question.
80 000 livres de charge. Si le camion pèse, on pèse à peu près 20 000 livres, un camion bobtail. Si le camion en pèse 35, 40, 80 000 livres, on passe la balance, les bonhommes verts vont faire des tickets à calvaire, là.
Excellent, Luc, comme commentaire. Mais, ça, c'est
mais
une bonne
en fait, c'est ça la grande question, parce que il y a un ingénieur qui calculait que pour avoir ces batteries-là, faudrait que le camion pèse à peu près 45 000 livres.
Fait voilà.
À 45 000 livres, vous n'êtes plus capable de rien transporter, là.
Ben non.
Donc, ça n'est plus
rentable. Pas des pots de fleurs.
Voilà. Donc, vous ne donnez pas votre 5 000 de dépôt tout de suite pour en commander un?
Pas l'aube-là, je ne sais pas, là, mais ils n'ont peut-être pas calculé leurs affaires comme du monde. Là, parce
ben
que,
oui, ils ont calculé leurs affaires comme du monde. On en parle de l'aube-là. Voilà, ben ils viennent de s'acheter une campagne de pub.
Qui est remboursable en plus. Imaginez, on en parle, puis si ça ne marche pas, ils se font rembourser l'argent. C'est la plus belle campagne de pub qu'ils ne pouvaient pas avoir.
Merci, Luc. Bien gentil.
Bye bye.
Alors voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, ben, on va poursuivre les appels. Restez avec nous.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Voilà, nous sommes de retour et nous avons plusieurs personnes en ligne. Jacques est là. Bonjour, Jacques.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, je suis camionneur.
Mm-hmm.
Et puis, c'est incroyable le nombre de véhicules, par exemple, qui circulent entre Montréal et Toronto à tous les jours, qui représente une distance de 500 à 600 kilomètres, dépendant si on va du Grand Montréal au Grand Toronto. Alors, c'est comme des conditions presque idéales pour ces camions-là, parce que souvent, ils vont arriver au terminal à l'autre bout, puis ils vont soit coucher ou faire des livraisons en ville, coucher au terminal, puis revenir le lendemain. Alors, il y aurait des possibilités de ce côté-là. Et la même chose pour en direction de Québec et même du lac Saint-Jean, là, qui était un petit peu plus loin, mais était encore dans les limites acceptables.
Ben oui, tu peux faire Québec-Montréal aller-retour sans aucun problème et après ça se recharger. Donc, il y a des applications.
Exactement.
Qui
oui, j'en ai fait beaucoup, c'est pour ça que j'en parle.
Merci d'avoir appelé, Jacques, très intéressant.
Bienvenue, bon après-midi, merci.
Merci à vous. Pierre est là, bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous parler ce matin, cet après-midi. Je voulais vous dire, moi je suis débardeur au port de Montréal.
Oui.
Puis je trouvais ça intéressant parce que une grosse partie des équipements au port, c'est des camions, style un peu shunter, là, des petites cabines. Puis ce qu'on fait dans la journée, c'est qu'on transporte les containers de différentes dimensions là, du navet ou du train vers le storage, là, qu'on les empile. Mm-hmm. Puis par la suite, on les renvoie. Donc, il y a beaucoup de mouvement avec ces camions-là. S'ils étaient électriques, je pense que ça serait très, très, très
Donc, présentement, vous utilisez des semi-remorques, là, des camions poids lourds pour faire ça au diesel?
Non, ils fonctionnent à l'essence.
Ils fonctionnent à l'essence. Donc, c'est des gros camions quand même, c'est des gros camions poids lourds. Donc, c'est les camions que Tesla a annoncés pour être utilisés.
Ben, peut-être pas dans la configuration qu'ils proposent. Peut-être que ça serait plus style shunter, là.
OK, ben oui, on
c'est
peut
des
modifier.
Camions un peu comme on a sur la route, mais c'est la cabine est très petite, c'est équipement minimaliste. Là. C'est vraiment pour traîner une remorque arrière, puis ils mettent le container là-dessus, puis on les transporte sur le site. Donc, il y aurait une économie au niveau pollution.
Ben oui.
Puis une économie au niveau de l'essence aussi, bien sûr, parce que ça marche tout à l'essence. Donc,
ouais. Là, la question,
c'est... Cette application-là.
Là, on va envoyer
la question,
notre étude
cependant...
de marché. Oui.
La question, cependant, c'est l'économie au niveau du prix d'achat. Parce qu'on se doute que pour avoir un véhicule de cette nature-là avec autant de batteries, ça sera pas nécessairement un prix abordable. Les camions dont vous nous parlez, Opal, les Shunters, c'est pas mal moins... Le prix est normalement moins élevé que les gros camions de route, là.
Ah, sûrement, bon. Mais...
Là, il faut calculer l'économie d'essence.
L'économie d'essence, le bruit aussi, puis l'écologie aussi, là, tu sais.
Absolument, absolument. Bon, autre application. Merci beaucoup, Pierre. Ouais. Merci d'avoir appelé. Bien gentil. Là, on va être obligé d'envoyer notre... On fait une étude de marché là, pour Tesla. Tellement. On voit là des applications. Là. On est en train de mettre des applications.
On va lui charger une bribe de consultant, Daniel.
Steve est là. Bonjour, Steve.
Oui, bonjour. Écoutez, je suis camionneur, longue distance. Il y a une chose qui serait bon, c'est qu'on n'aurait pas besoin de borne de recharge. On a des... Qu'est-ce qu'on appelle des... convecteurs qui marchent au gaz. Vous allez tous me dire « ça marche au gaz? » Oui. On s'en sert pour économiser nos moteurs en chauffant notre cabine ou en refroidissant nos cabines. Ça marche, ça donne du courant. Ce qui est bon, c'est que rendu au drug stop, tu pars ta machine, tu peux te mettre de la chaleur ou du froid et ça recharge tes batteries.
Donc, un peu le système de la Volt. La Volt qui utilise son moteur à essence pour recharger les batteries et envoyer de l'électricité aux batteries. Donc, le système existe déjà, il est déjà utilisé par GM. Vous pensez que Tesla pourrait l'appliquer à son camion? Ça serait bénéfique.
Oui, parce que vous allez prendre comme l'État de New York, on n'a pas le droit de faire marcher nos trucks au ralenti. On se sert de ces machines-là exprès pour ça.
Ben, c'est brillant, ça. Je viens de... c'est donc bien brillant, ça. Sur l'autoroute, par exemple, si vous savez que vos batteries commencent à être plus faibles, on décolle le moteur à essence, on fonctionne avec le moteur à essence. Quand on arrive où les grandes villes, puis bientôt les grandes villes vont interdire les moteurs à essence et diesel, les camions dans le centre-ville, on arrête le moteur, on continue simplement électrique. Brillant.
Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la loi sur le transport nous oblige, je suis côté US, d'arrêter... une demi-heure aux 8 heures. En roulant à 105 km, si vous calculez, vous allez être obligé d'arrêter à 6 heures. Le temps d'être obligé d'aller prendre votre café ou de manger.
Et on recharge le véhicule.
Partir, c'est vrai ça.
Parfait, ça. Très intéressant, merci beaucoup. Ça a bien de l'allure. Oui, Marc.
La seule question qu'on peut poser, par contre, c'est évidemment, je comprends que c'est une bonne idée. Le problème, c'est que les batteries dont on parle pour traîner ce poids-là sont des batteries évidemment imposantes. Ça prendrait un solide chargeur à essence pour être capable probablement de maintenir les batteries à un certain niveau. En fait, il a le problème. Le problème, il est pas dans l'idée, parce que tout le monde est d'accord avec le principe, c'est dans la faisabilité. Est-ce qu'on va être capable vraiment de charger ça sans avoir 500 000 de batteries qui traînent chez nous? Parce qu'on estime qu'il y aurait pour 600 000 $ de batteries dans un camion comme celui-là.
Wow! Je comprends. C'est quelque chose. Denis est là. Bonjour, Denis.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis pas un camionneur, je suis un routier.
OK. C'est quoi la différence? Vous ne conduisez pas toujours un camion?
Oui, je suis un routier de Missouri. Je suis un routier parce qu'il y a une différence entre les deux. Mais moi, j'écoutais votre préambule. Ouais. Et vous dites 80 000 livres de char. Ben, ça se peut pas. Parce qu'aux États-Unis, 80 000 livres, c'est des grosses. La charge, tu la trottes.
C'est ça, c'est les deux ensemble. Hein?
Oui.
Ouais, mais je pense que vous avez dit 80 000 livres de char. Là, ça me mêle un petit peu.
OK.
Puis là, avec le logbook électronique qui s'en vient dans pas long, présentement, les compagnies nous demandent, ils exigent pas, mais ils nous demandent de rouler environ une moyenne de 900-950 km par jour. Mais avec le logbook électronique, ça sera plus possible, probablement, d'en faire autant. Là. Ça fait que, d'après moi, c'est très, 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 très possible que ça arrive, parce que déjà là, il y a une autonomie de 800 km. Et puis, comme le gars précédent disait, on est obligé d'arrêter une demi-heure à toutes les 4-5 heures. Ça fait qu'on serait capable facilement, même nous autres sur le highway, là, moi je vois loin, là, mettons, rouler 4-5 heures, elle m'a parqué dans un truck stop, puis a rechargé pour un heure, puis c'est une excellente journée. Et puis,
ça fonctionne.
C'est très possible. Puis moi, j'ai hâte, parce que moi, ça fait 40 ans que je chauffe des trucks. Et puis, les premiers trucks que j'ai chauffés, ben, il n'y avait même pas de chaufferette dans le truck, là. Et puis, l'évolution, ça va vite.
Ah oui,
j'ai
bien hâte
de voir ça.
Merci beaucoup d'avoir appelé, Denis, très gentil. On s'arrête pour une pause et au retour, Philippe Lagu. Là.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, Philippe est avec nous pour nous parler de Ferrari. Philippe, ça va être intéressant.
Ferrari, comme on l'a mentionné, qui célèbre cette année son 70e anniversaire, donc tout a commencé en 1947. Mais oui. Comme tu l'as sans doute déjà remarqué, Daniel, hein, j'aime les récits linéaires. On va commencer par le début. Enzo Anselmo Ferrari, de son nom complet, vient au monde en 1898 dans les faubourgs de Modène. Ça, c'est en plein cœur d'une région, l'Émilie-Romagne, qui va devenir, et ça en grande partie grâce à lui, là, le berceau du haut de gamme de l'industrie automobile italienne. Et le premier virage important dans la vie d'Enzo Ferrari, c'est quand il assiste, à l'âge de 10 ans, à sa première course automobile. Il est avec son frère à ce moment-là et leur père. Et ça, ben, ça m'amène à vous parler aussi des drames qui vont parsemer le destin d'Enzo Ferrari, parce que c'est vraiment une tragédie à l'italienne par moment. D'abord, oui, c'est vrai, regarde ça, Enzo, d'abord, le jeune Enzo va perdre son frère et son père la même année, en 1916. Ils sont tous les deux emportés par la maladie. Les versions varient, là, on parle de pneumonie, d'épidémie de grippe, là, mais c'est dans ce...
C'est des maladies.
Oui, c'est de cet ordre-là, tiens. Et l'année suivante, en 1917, ben, la Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée. Et là, le jeune Enzo Ferrari est enrôlé par l'armée italienne. Par contre, il va éviter d'aller au combat parce que sa tâche consiste à ferrer les mulets qui sont utilisés par l'armée. Puis là, pas les mulets comme en course automobile.
Oui, c'est ça.
Non, des vrais mulets, là, des ânes. Oui, c'est très utile dans les régions montagneuses, mais il faut dire aussi que ça fait 100 ans. Hein?
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Et là, ben après la guerre, Enzo Ferrari va être démobilisé. Puis là, ben, il essaie de trouver du travail à Turin, puis après ça à Milan, parce que ce sont les deux grosses villes industrielles du nord de l'Italie. Puis c'est à Milan, finalement, qu'il va se trouver un emploi qui, encore une fois, va être un virage important pour lui, un tournant. Là, il est engagé comme pilote d'essai et ensuite comme pilote de course pour CMN, qui est un constructeur qui n'existe plus, là. Puis à partir de là, les choses vont vraiment débouler. En 1920, Enzo Ferrari est embauché par Alfa Romeo, qui est déjà une marque prestigieuse et à laquelle il va être associé pendant près de 20 ans. D'abord comme pilote et ensuite comme directeur sportif. Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, mais on en avait parlé aussi quand on avait fait l'historique d'Alfa Romeo à notre deuxième émission. Et là, ben, on est en 1920. Et 9 ans plus tard, donc en 1929, là, il va créer la Scuderia Ferrari. Scuderia qui veut dire écurie. Mais, attention, il va pas rompre ses liens avec Alfa Romeo pour autant. Au contraire, il va continuer de gérer, comme en sous-traitance, là, la division course d'Alfa Romeo. Et là, c'est à ce moment-là que le fameux cheval, le cheval cabré, le Cavallino Rampante, c'est là qui va devenir l'emblème de Ferrari. C'est une comtesse, la comtesse Baracca, qui est la mère de Francesco Baracca, qui est un as de l'aviation italienne, qui lui propose d'utiliser le cheval cabré qui était peint sur l'avion de son fils qui est mort au combat en 1918. Et c'est à partir de là que Ferrari... En fait, tu vois un peu l'insigne Ferrari, le bouclier jaune.
Oui.
Jaune, c'est pour la couleur de la ville de Modène, où Ferrari est installé d'abord et d'où il est originaire. Et le cheval noir, il vient, c'est vraiment l'emblème qu'il y avait sur l'avion de Baracca. Alors, Enzo Ferrari, finalement, va quitter Alfa Romeo 10 ans plus tard, en 1939, mais il a une clause de non-concurrence, sauf que cette période de non-concurrence va coïncider avec la Deuxième Guerre mondiale, et pendant la guerre, l'usine, la nouvelle usine d'Enzo Ferrari, de toute façon, va être réquisitionnée pour fabriquer du matériel militaire. Alors, c'est donc après la Seconde Guerre mondiale qui va devenir officiellement constructeur. Et plus précisément, le 12 mars 1947, c'est là que la première Ferrari, la 125S, roule pour la première fois. Et deux mois plus tard, le 25 mai, plus précisément, elle va gagner sa première course aux mains du pilote Franco Cortese, et ça, c'est le Grand Prix de Rome. Et à partir de là, les succès vont s'enchaîner. Là. Ferrari va gagner les Mille Miglia en 1948, les 24 heures du Mans l'année suivante, en 1949. Ferrari, ensuite, va se lancer dans l'aventure de la Formule 1. La Formule 1, ça commence en 1950. Ferrari gagne son premier Grand Prix en 1951 et deux championnats consécutifs en 1952 et 1953. Alors vraiment, on peut dire que ça part...
Des débuts prometteurs.
Ouais, ça part fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, il y a une autre tragédie qui va frapper Enzo Ferrari. Puis ça, c'est indiscutablement la plus grande, la plus douloureuse de sa vie. En 1956, son fils Alfredo, qui est surnommé Dino, qui est aussi son successeur désigné, va mourir à seulement 24 ans. Il va mourir de la dystrophie musculaire. Et à partir de là, Enzo Ferrari est dévasté. Il s'en remettra jamais complètement. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il va commencer à vivre de plus en plus reclus. Il va diminuer sa présence aux courses automobiles, puis finalement, il va finir par ne plus y aller du tout. Et il sort à peu près plus de Maranello à partir de ce moment-là. Mais juste avant la mort de Dino, les Ferrari, père et fils, ont eu le temps de concevoir, avec l'aide d'un ingénieur légendaire, le Vittorio Giannu, qui est très, très important dans l'histoire d'Alfa Romeo et de Ferrari. Alors, les trois hommes ont eu le temps de concevoir le célèbre V6 Dino, qui va être utilisé autant en compétition que dans les voitures de série. Et après la mort de son fils, Enzo Ferrari va se désintéresser de plus en plus des voitures de production. Lui, il se concentre vraiment sur son écurie, la Scuderia, qui devient en plus, à partir de ce moment-là, là, vraiment sa seule raison de vivre. Il faut dire une chose, Daniel, hein? Quand Enzo Ferrari était pilote, il avait décidé d'arrêter d'être pilote à cause de la naissance de son fils. Hey. Alors, quand son fils meurt, c'est vraiment ça, il perd un peu sa raison de vivre, ou en tout cas, la seule qui lui reste, c'est vraiment son écurie. Mais même s'il se désintéresse du côté production, il veut quand même que la marque Ferrari lui survive. Puis pour assurer la pérennité de son entreprise, bien, il va vendre 50 % de ses parts au groupe Fiat en 1969. Entre-temps, bien, la Scuderia Ferrari va connaître vraiment des fortunes diverses. Là. Il va avoir des bons moments, mais il va en avoir des moins bons. Elle a été battue par Ford en 1966 aux 24 heures du Mans. Puis après avoir été battue par Ford, Ferrari ne remportera plus jamais cette épreuve-là. Et pourtant, Le Mans, c'était une de ses épreuves fétiches. Et ça va tellement ébranler Ferrari que la Scuderia va se retirer finalement des courses d'endurance pour se concentrer uniquement sur la Formule 1 à partir de 1975. La Scuderia va aussi connaître ses traversées du désert en Formule 1, hein, parce que il va s'écouler 11 ans entre le championnat de John Surtees en 1964 et celui de Niki Lauda en 1975. Et ensuite, encore plus long, il va s'écouler 21 ans entre le championnat de Jody Scheckter en 1979 et Michael Schumacher en 2000. Et en ce moment, la Scuderia traverse une autre période d'insuccès parce que ça fait exactement 10 ans cette année qu'un de ses pilotes n'a pas été champion du monde. Le dernier, c'est Kimi Raikkonen en 2007. Mais il n'en reste pas moins que la Scuderia Ferrari détient la plupart des records de la Formule 1. Hein? 16 championnats des constructeurs, 15 championnats des pilotes, au-dessus de 220 victoires en Grand Prix. Et puis, évidemment, je te parle j'ai mentionné le mot tragédie à plusieurs reprises dans l'histoire d'Enzo Ferrari. C'est sûr que la course va amener, elle aussi, son lot de tragédies. Il y a plusieurs pilotes qui vont se tuer au volant d'une Ferrari. Ascari, De Portago, Castellotti, Musso, Peter Collins, Von Trips, Bandini, la liste est longue, là. Mais c'est vraiment la mort du pilote québécois Gilles Villeneuve en 1982 qui va ébranler probablement le plus Enzo Ferrari. Enzo Ferrari qui n'est pas un sentimental, hein, c'est important de le dire, là, et qui va aller jusqu'à dire « je l'aimais comme un fils ». Et ouais, c'est énorme. C'est énorme quand on sait en plus ce que ça veut dire un fils pour lui. Hein.
Exact.
Et malgré les traversées du désert, malgré les drames, la compétition, ben, c'est vraiment au centre de l'univers d'Enzo Ferrari. C'est ce qui donne un sens à sa vie. Il n'a jamais caché que ses activités de constructeur de voitures de sport haut de gamme avaient comme unique fonction de financer son écurie de course automobile. Mais il en demeure pas moins que la marque Ferrari a survécu au décès d'Enzo Ferrari en 1988. C'est d'ailleurs à partir de sa mort qu'il y a eu une spéculation effrayante sur les Ferrari de collection. On va en parler dans le prochain bloc. Mais il faut quand même mentionner en terminant, Daniel, que le successeur d'Enzo Ferrari, Luca di Montezemolo, a vraiment permis à Ferrari de connaître une renaissance dans les années 90. Parce que dans les années 80, le côté qualité, ça baissait beaucoup. Et la qualité, entre guillemets, artisanale des Ferrari, là, ça commençait à passer de moins en moins. Et là, ben, pour ses 70 ans, on peut dire que Ferrari, vraiment, là, affiche une santé resplendissante. C'est une marque qui atteint des sommets historiques de production. On est autour de 8000 véhicules par année, ce qui est le double de ce que c'était il y a une vingtaine d'années. Moi, en 98, j'étais allé à l'usine à Maranello, et à ce moment-là, Ferrari faisait à peu près 4000 voitures par année. Il ne voulait pas dépasser 5000. C'était hors de question. C'était pour garder aussi la rareté. On sait que depuis que Sergio Marchionne est devenu le grand patron du groupe Fiat Chrysler et qui dirige aussi Ferrari, il aimerait amener la production à 9000. Mais au moins, on ne dépasse pas les 10 000 voitures, ce qui conserve quand même une certaine exclusivité, et je devrais même dire une exclusivité certaine au Ferrari. Puis en terminant, ben, la rentabilité, mon cher Daniel, hein, ça ben c'est là. En croissance constante. Alors presque 30 ans, hein, à une année près, presque 30 ans après sa mort, on peut dire que l'héritage d'Enzo Ferrari continue de fructifier. Au propre comme au figuré. Oui, c'est ça.
Sans l'ombre d'un doute. Et la rumeur, évidemment, là, les grands constructeurs de très haut de gamme sont passés au sport utilitaire.
Malheureusement.
Alors, si Ferrari va dans la même direction, on va pouvoir ajouter les 1000 modèles qui manquent pour M. Marchionne. Et ça ne m'étonnerait pas que, évidemment, on veut faire de l'argent, on veut aller un peu plus loin.
Et Ferrari qui a
probablement passé par là.
Puis Ferrari qui a été inscrit en bourse aussi depuis l'arrivée de Sergio Marchionne, qui a d'ailleurs à la bourse, Ferrari a été littéralement séparé du groupe Fiat Chrysler. C'est devenu une entité indépendante en bourse. Alors effectivement,
et ça veut dire beaucoup pour le reste de la marque.
Ben c'est ça. Si on veut faire augmenter la capitalisation boursière de Ferrari, peut-être qu'on va y aller avec un VUS. Mais ça, attention, hein, ce serait considéré comme un sacrilège par les puristes. Alors qui
là,
aura raison?
On va
raison?
Devoir aller te chercher. Tu vas être en boule, en position fœtale.
Non, parce que je m'y prépare déjà psychologiquement. Okay. Je le sais qu'avec Sergio Marchionne, tout peut arriver. Ça,
OK. On va te garder. Ton équilibre mental va rester avec nous autres.
Tu sais, merci. Ce qu'il en reste. Oui.
On se parle tantôt.
Salut, Daniel.
Bye-bye. Alors, les modèles importants de Ferrari un petit peu plus tard à l'émission. Marc, il y a quand même quelques nouvelles de l'industrie. On n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup, mais il y a quelques nouvelles de l'industrie, là.
Ouais, dont une, parlant d'électrique, GM, qui a présenté cette semaine le croquis d'un nouveau véhicule électrique, un petit SUV basé, dit-on, sur la Chevrolet Bolt. Donc, ça donne une idée de la dimension. La nouvelle, c'est que ça pourrait être un Buick, mon cher. Ce serait donc un Buick qui serait le prochain porteur de la flamme électrique chez GM. Évidemment, on n'est pas rendu là encore, mais c'est un croquis que GM eux-mêmes ont laissé couler cette semaine. Alors, disons que ça augure bien.
Je trouve ça spécial que ce soit basé sur la Bolt. J'aurais pensé que le SUV, parce qu'on s'en va vers le SUV, serait plutôt vers la Volt, qu'on arriverait avec un genre de véhicule plus familial, plus utilitaire avec l'espace. Sur la Volt, là, on va devoir allonger, élargir, monter en hauteur.
Moi, je pense que c'est plus la technologie, à mon avis, qui va être copiée c'est sur la Volt.
Hein? Okay.
Bien que le dessin qu'on nous a montré, c'est pas très gros, là. C'est à peine plus gros qu'une Volt actuelle. Comme je te dis, si on le met en version luxueuse pour Buick, ça va. Mais il n'y a pas vraiment, effectivement, de bonnes raisons d'arriver avec ça, là.
T'en as-tu une autre rapide?
Ouais, une autre rapide de Mazda qui nous a confirmé que la Mazda 6 qui arrive au salon de Los Angeles dans deux semaines, salon auquel on va participer tous les deux d'ailleurs, oui. va arriver avec le 2.5 turbo 4 cylindres, le même qu'on retrouve dans le CX-9. Et avec une finition intérieure qui est de grand luxe. Les versions haut de gamme ont même un bois particulier qui sert aux meubles artisanaux au Japon. Alors, la Mazda 6 prend vraiment une marche vers le haut. Là. On est vraiment rendu dans les véhicules qui sont plus proches du véhicule de luxe.
On veut concurrencer la Fusion Sport et les autres berlines intermédiaires sportives.
Ah ben. Mais avec une touche de luxe parce qu'elle ne se vend pas actuellement dans son créneau, malheureusement, la Mazda 6.
Pause nouvelle et au retour, soyez prêts parce que on va parler avec Philippe et on va prendre vos appels également. Restez avec nous.